France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, François Couperin rappelait que le goût italien et le goût français ont partagé depuis longtemps la République de la musique. On sait que ces deux styles ont dominé la période baroque, enjambant les frontières, s'infiltrant dans l'Angleterre de Purcell et dans l'Allemagne de Bach et Telemann. Comment la musique française, a priori moins facilement exportable que sa rivale transalpine, a-t-elle investi l'espace germanique? Quelles conditions politiques, économiques, culturelles ont favorisé sa circulation? Comment les compositeurs allemands se sont-ils appropriés ce modèle français? Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond avec force, détail et argument le livre absolument passionnant de Louis Delpech, mon invité. Ouverture à la française, migration musicale dans l'espace germanique 1660-1730, qui vient de paraître chez Brepols. L'ensemble Ora Musicale de Budapest dirigeait l'ouverture de la suite pour orchestre numéro 5 en si bémol majeur de Johann Sigismund Kusser. Bonjour Louis Delpech.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Zurich et rédacteur en chef de la revue de musicologie et l'auteur donc de ce livre consacré aux migrations musicales dans l'espace germanique, ouverture à la française, ouverture au pluriel. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet, circulation, transfert culturel. Il faut pour cela donc des conditions favorables, évidemment, pour que les hommes ou la musique circulent. Est-ce que c'est la fin de la guerre de 30 ans? Est-ce qu'il faut une période de paix pour que cette circulation puisse s'accomplir?
C'est une très bonne question. La guerre est aussi un contexte dans lequel les musiciens circulent, parce que les armées ont avec elles, à cette époque-là, des régiments de hoboïstes. Et d'ailleurs, les armées allemandes, après la guerre de 30 ans, calquent certaines de leurs pratiques sur des pratiques militaires françaises, et y compris des pratiques musicales. Et on voit que certains musiciens ont transité par une carrière militaire avant d'arriver dans les cours allemandes. Mais effectivement, disons, 1648, le traité de paix de Westphalie, c'est vraiment à la fois le début, on pourrait dire, de la circulation européenne des musiciens français. On voit ça très nettement en 1650 avec la tournée d'Anne de la Barre en Scandinavie. Mmh. Et les cours allemandes emboîtent le pas. Et en fait, effectivement, la période entre 1650 et 1730, pour plusieurs raisons, qui ne sont pas toujours celles qu'on croit, est très favorable à la migration de musiciens français. Favorable ou... Enfin, c'est pas toujours des facteurs positifs. Nous, aujourd'hui, on a tendance à voir la circulation et la migration comme quelque chose d'intrinsèquement positif, mais il y a aussi des facteurs qui poussent les musiciens à partir de France. C'est ce qu'on appelle, en théorie de la migration, des facteurs push, donc qui poussent à partir. Je formule plusieurs hypothèses dans le livre sur ces facteurs, mais effectivement, c'est une période à la fois... qui voit la fin de ce grand conflit de la guerre de 30 ans qui a marqué l'Europe entière, mais qui est en même temps marqué par plusieurs guerres et des guerres menées par Louis XIV qui aussi marquent cette période.
Est-ce que, parmi les facteurs, est-ce que la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV, est-ce que c'est un facteur justement l'immigration des Huguenots dans ces pays protestants ?
Effectivement, c'est la première chose à laquelle on pense.
Oui.
Et en fait, quand on se penche sur le détail des trajectoires de ces musiciens, la première chose surprenante que j'ai constatée, c'est qu'ils étaient presque tous catholiques. Quand on regarde les registres de mariage, de baptême, on voit que même quand ils sont en Allemagne, enfin dans l'Empire, on va dire, parce que l'Allemagne n'était pas encore constituée, depuis 30 ans, ils continuent à faire baptiser leurs enfants dans les chapelles catholiques et à se marier dans les chapelles catholiques, si tant est que ce soit possible. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la révocation de l'édit de Nantes, mais déjà bien avant, en fait, depuis le milieu du XVIIe siècle, la migration de nobles, de grands militaires, d'officiers militaires et de grands commerçants français huguenots dans les métropoles et les cours de Hollande d'Empire, ont créé effectivement un public qui était capable de comprendre les œuvres dans leur langue originale. Et ça, c'est vraiment un point décisif. Donc, les musiciens eux-mêmes ne sont pas, pour la majorité d'entre eux, l'énorme majorité d'entre eux, ne sont pas des huguenots qui ont pris la fuite, mais leur public, et en particulier dans les villes de Hollande, comme l'a montré Rebecca Arendt, là, moi, c'est plutôt un contexte de cours, donc là, c'est moins directement sensible, mais dans les grandes villes de Hollande, c'est clair que la migration de la musique française a indirectement à voir avec l'exode des huguenots. Mais l'un des avantages du livre, c'est de sortir un peu des grands schémas explicatifs, d'une part la révocation de l'édit de Nantes, et d'autre part l'Europe française avec la volonté d'imiter la cour de Louis XIV, et on cherche un peu une troisième voie entre ces deux grandes explications.
Thank you. Rondo, extrait d'une suite pour orchestre en ré mineur TWV 55 de Georg Philipp Telemann, interprété par l'orchestre Pratum Integrum. Louis Delpech, revenons à ces migrations, à cette circulation donc de la musique française en Allemagne, on va dire. Alors, mais qu'est-ce qui circule? Ce sont les hommes? Est-ce que c'est la musique, les partitions?
C'est ça qui est absolument passionnant quand on fait l'histoire des circulations musicales. C'est que la musique, c'est pas simplement du papier et des notes. C'est aussi des instruments. Ce sont des musiciens et ce sont des pratiques musicales. Donc au XVIIe siècle, vous pouvez faire venir les œuvres complètes de Fénelon en Russie, mais vous n'avez pas besoin tellement de gens. Vous savez lire le français, vous n'avez pas besoin de chair humaine. La musique, c'est différent. Vous avez besoin de gens qui savent la jouer. Et donc c'est vraiment la conjonction de migration humaine et de circulation culturelle qui, moi, m'a fasciné dans ce sujet. Et les exemples musicaux que vous avez joués, l'ouverture de Kusser, ce rondo aux allures de gavotte de Telemann, montrent bien comment les circulations humaines influencent la musique de manière directe. C'est pas quelque chose de lointain, c'est pas une mode, c'est vraiment le résultat direct de circulation d'artistes. Et ce qui est passionnant, c'est de relier, bien sûr, les deux, sans cesse, de faire un aller-retour entre ces deux niveaux.
Et alors, Louis Delpech, comment est-ce qu'on explique donc cette sorte d'appel des musiciens français vers le Nord? Parce qu'on parle de l'Allemagne, mais vous citez également la cour du Danemark, Christine de Suède également, qui s'attache au service de plusieurs musiciens français. Pourquoi ce courant d'air vers le Nord?
C'est une bonne question. ce courant d'air vers le Nord, il peut être expliqué d'abord par, comme je vous l'ai dit, des facteurs qui poussent certains musiciens à chercher une meilleure fortune ailleurs.
Ouais.
Ces facteurs, ils sont assez simples en fait. C'est le conflit entre la corporation des joueurs d'instruments et la corporation des maîtres à danser parisiens, qui interdit en fait les maîtres joueurs d'instruments d'enseigner la danse, donc il les prive d'une partie de leurs ressources. C'est la fondation de l'Académie royale de musique, c'est la centralisation de l'édition de la vie musicale en France, le monopole accordé à Lully. Un exemple très frappant de ça, c'est la correspondance entre Pierre de la Barre et Constantin Huygens, où il explique que ses enfants ne pourront pas bénéficier des mêmes opportunités que lui en France, et donc il souhaite les envoyer dans quelque autre cours. Hein. Se mettre à la recherche d'un prince qui soit capable de reconnaître à la fois de financer les talents artistiques et de les reconnaître à leur juste valeur. Et puis, il y a aussi des facteurs d'attraction, parce qu'effectivement, comment expliquer le choix de cette destination? Alors, la migration des musiciens français, elle n'est pas du tout limitée, disons, à l'Europe du Nord, Scandinavie, espace germanique. Quand on suit les trajectoires, on se rend compte qu'il y a des musiciens qui vont jusqu'à Constantinople, qui se retrouvent tout d'un coup à jouer à l'Opéra de Milan. Donc finalement, moi j'ai choisi un prisme largement centré sur l'Europe du Nord, mais les circulations dépassent un petit peu ce cadre. Ce qui est très frappant dans l'espace germanique, c'est la densité des échanges musicaux. En Suède, on a effectivement des musiciens français sous le règne de Christine de Suède, mais après, ça s'arrête assez rapidement. À cause de la multiplicité des cours, évidemment, les musiciens français ont un vivier d'employeurs qui est très flexible. C'est-à-dire que s'ils partent d'un cours en Allemagne...
Oui, parce que c'est un pays en fait, qui est une mosaïque de principautés et de duchés. Ouais.
Voilà, absolument. Donc si on voit des musiciens qui vont de cours en cours dans l'espace germanique. Donc de ce point de vue-là, c'est un élément... tout à fait intéressant. Et puis quand on compare les salaires des musiciens qui sont employés dans les cours ducales princières de l'Empire avec les musiciens qui sont employés à la cour de France, les musiciens du roi, on se rend compte que certains musiciens en Allemagne sont bien mieux payés que même plusieurs musiciens du roi. Alors évidemment, faire ces comparaisons, c'est toujours un petit peu délicat parce que le coût de la vie n'est pas le même, on compare des monnaies différentes, etc. Mais c'est quand même un élément intéressant de s'apercevoir que les musiciens étaient très bien payés dans ces régions. Le troisième facteur qui les pousse vers l'espace germanique, peut-être on pourrait dire que là, ça a à voir avec la migration des Huguenots et la diffusion de l'idéal galant dans la noblesse d'Empire à partir des dernières années du XVIIe siècle. C'est-à-dire que souvent on parle d'une fascination pour la cour de Louis XIV, pour l'absolutisme. En fait, il est plus juste de dire que c'est un idéal de galanterie qui se diffuse dans certaines strates de la noblesse d'Empire et qui conduit les souverains à rapprocher leur amour de la musique française avec un idéal culturel beaucoup plus large.
Le Collegium Vocale de Gand, sous la direction de Philippe Hervaig, c'était le chœur d'ouverture de la cantate BWV 61, Nun kommt der Heiden Heiland de Jean-Sébastien Bach. Louis Delpech, retour donc à ces migrations de la musique française et des musiciens français vers l'espace germanique. Que recherche en fait cette aristocratie germanique? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre de la part de ces musiciens français? Qu'est-ce que pour eux le style français? Alors nous, on en a une idée à travers justement la suite, l'ouverture, comme on a entendu tout à l'heure, celle de Kusser, l'ouverture des opéras de Lully, ou même là, ce qu'on entend transposé dans une musique d'église, une cantate sacrée de Bach. Qu'est-ce que recherchent ces aristocrates allemands?
Alors effectivement, quand on pense à du point de vue des employeurs, des musiciens, quel est l'avantage d'avoir des musiciens français par rapport à des musiciens italiens? Premier avantage, c'est qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Donc vous allez économiser beaucoup d'argent. Le deuxième avantage, c'est que jusque dans les années, on va dire, 1700, vous pouvez les employer absolument partout. Vous pouvez les employer au théâtre. C'est-à-dire que si vous avez une bande de comédiens français, vous allez pouvoir mêler les musiciens. Et d'ailleurs, souvent, les mêmes personnes vont assumer les deux fonctions. Et il y a beaucoup d'exemples de musiciens français qui voyagent avec des troupes itinérantes de comédiens français. Parce qu'à cette époque, le théâtre classique français est toujours, quasiment toujours, mêlé de musique. Ça, c'est les travaux de Bénédicte Mausolet, etc. Premier avantage, donc, ils sont pas chers, ils sont flexibles. Et si vous n'aimez pas tellement la musique sacrée, en fait, vous allez pouvoir les employer pour des ballets, pour des pièces de théâtre, pour de la musique de table, mais aussi pour de la musique d'église, mais sans vraiment avoir cette spécialisation de certains musiciens italiens, comme on avait par exemple à la cour de Hanovre avant le changement de souverain, où on avait des musiciens italiens qui étaient payés très cher, des chanteurs payés très cher, qui chantent à la chapelle catholique à cette époque-là de la cour. Après la mort de Johann Friedrich, changement complet, les musiciens italiens sont renvoyés du jour au lendemain pratiquement, et des musiciens français arrivent. Et là, on les voit assumer des fonctions beaucoup plus variées. Et en plus, la plupart sont des instrumentistes. Donc, vous allez pouvoir aussi les mettre, même à Hanovre, c'est ce qui se passe avec l'arrivée d'Agostino Stefani, c'est-à-dire les musiciens français vont jouer dans l'orchestre. Alors, vous aurez des chanteurs italiens sur la scène. Donc, c'est une force de travail bon marché, très flexible. Quelles sont les caractéristiques ou les genres dans lesquels s'exprime le style français? Bon, il y a bien sûr le ballet de cour, il y a les pièces de théâtre, il y a les suites de danse, il y a la musique de table. Tout ça fait appel plus ou moins au même répertoire. En gros, ce sont des suites instrumentales. Mais on perçoit aussi que certains musiciens composent de la musique d'église, de la musique vocale. Par exemple, c'est le cas de Stéphane Valois à Hanovre, qui lui est probablement catholique, et il compose de la musique pour la chapelle luthérienne de la cour. Mais il n'en a pas composé beaucoup. Mais ce sont des œuvres très intéressantes qui montrent que même au-delà de leur, on va dire, de leur cœur de compétences, les musiciens français pouvaient assumer des fonctions très variées.
Dirigé par Marc Minkowski, c'était un extrait d'Ariodante, une gavotte, extrait du premier acte d'Ariodante de Händel. Louis Delpech, alors comment les Allemands, les musiciens allemands s'approprient-ils cette musique française? Vous intitulez le dernier chapitre, je crois, de votre livre « L'invention allemande du style français ». À quoi cela correspond-il exactement?
Alors, avec les deux derniers exemples musicaux que vous avez proposés, on voit très bien la diversité d'usages auxquels la musique française se plie sous la plume des compositeurs allemands. avec ce chœur introductif de cantate luthérienne en forme d'ouverture à la française, Bach réalise une synthèse très spéciale, très originale, entre l'univers du choral et l'univers de l'ouverture à la française, qui a priori sont deux univers quand même assez différents. Là, avec cette gavotte de Handel, on voit un compositeur au fait de sa carrière à Londres composer des musiques de divertissement pour Marie Salé, une troupe de danseurs françaises, pour cet opéra qui est créé dans les années 30. Donc là, on a au contraire un usage beaucoup plus urbain, cosmopolite, pour un public vraiment d'une grande métropole européenne. Donc on voit bien que cette musique, elle étend des racines dans beaucoup de genres et elle se prête à beaucoup d'usages. Les grandes manifestations de cette appropriation du style français par les compositeurs allemands, il faut bien sûr les chercher dans les collections de suites instrumentales à la française, qui sont publiées dans les années 80 et jusqu'en 1700. Mais en fait, on peut aussi s'interroger sur l'inscription dans la durée de cette réception allemande, si on parle en termes de réception du style français. Mais moi, j'ai préféré parler d'invention, parce qu'en fait, on se rend compte que pour les théoriciens de la musique allemande de cette époque-là, mais aussi pour les compositeurs, évidemment, la production française n'est pas considérée dans son ensemble. Elle est considérée de manière très sélective à partir de préoccupations culturelles qui sont très propres aux Allemands, aux auteurs, aux compositeurs de langue allemande. Mmh. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'une invention. C'est une invention, d'une part, parce que les compositeurs se mettent à composer à la française, ce qui suppose quand même de copier beaucoup de musique, de connaître beaucoup de répertoires, de se faire la main vraiment sur cette technique de composition qui n'est pas du tout évidente quand on a été en particulier, entraîné à un style qui est plutôt italianisant, mais c'est aussi une invention théorique, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur pourquoi est-ce que la musique est différente selon les pays, est-ce que c'est si important, et c'est ça qui va aussi déterminer un peu le destin des styles nationaux jusqu'aux Lumières, puisqu'avec l'apparition des premières Lumières, finalement on se rend compte que la question des styles nationaux est reléguée à une sorte de vestige de l'ancien régime, d'une Europe vraiment de l'ancien temps, et que ce qui va prédominer avec l'apparition du style galant, c'est la recherche d'un style cosmopolite qui soit débarrassé des particularismes du style français, du style italien, ou du style allemand, ou du style anglais.
Mais alors quand Bach compose à la française, comment se réalise cette hybridation?
Alors Bach, c'est déjà très tard. Là on a une cantate de 1714. Et ça va dépendre beaucoup des genres dans lesquels il compose. Bon, il y a les ouvertures pour orchestre qu'il compose, il y a les suites pour clavier, là, qui sont des calques assez proches de ces modèles français. Mais il y a aussi quelque chose d'absolument fascinant qui est la manière dont il va intégrer des pratiques françaises d'orchestration, de modulation dans l'univers de la cantate luthérienne. On a bien sûr l'usage de l'ouverture. Ce que je trouve très frappant, c'est que par exemple la première cantate que Bach compose pour Leipzig, vous avez deux parties, comme toujours dans les cantates pour Leipzig, une avant le sermon, une après le sermon. La partie avant le sermon est introduite par une ouverture à la française magistrale, magnifique, avec chœur, mais c'est ça qui est l'élément perturbateur, on va dire. Et puis la deuxième partie est ouverte avec une sorte de symphonie à l'italienne. Et on voit bien là que Bach, quand il arrive dans cette ville un peu bouillonnante qu'est Leipzig, quand même se positionne dès le début de son mandat de cantor entre ces deux styles. Et c'est une sorte de négociation permanente. Après, dans l'œuvre tardive, on peut penser à la troisième partie de la clavier Eubon, qui commence par une sorte d'ouverture à la française
pour orgue, qui est
retranscrite pour orgue, ou bien même dans l'art de la fugue, il y a des variations qui font appel à des éléments stylistiques français. Là, c'est un usage beaucoup plus abstrait, beaucoup plus distancié du style français. Mais je pense que quand on voit l'héritage intellectuel de Bach, lui a été très marqué par le répertoire pour clavier qu'il a copié pendant sa jeunesse. On a des manuscrits de sa main. Mais à partir des années 1730, c'est un petit peu has-been, on pourrait dire. Ça devient un peu la musique d'hier. Mais lui persiste et signe. Et ça va lui être reproché par de ses élèves, et en particulier par Scheibe, qui dit c'est impossible de composer un mouvement dans le style italien, un mouvement dans le style français, c'est confus, on n'y comprend rien. Et donc, on voit aussi que le jeune et le vieux Bach s'emparent de la musique française de manière très différente.
Très bien, merci beaucoup Louis Delpech. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant, Ouverture à la française, migration musicale dans l'espace germanique 1660-1730. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Inès de Brune, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de François Porcil et nous parlerons de Benjamin Britten. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.